Un autre important document qui a été diffusé aujourd'hui, l'interrogatoire d'Alexandre Bissonnette qui a avoué aux policiers qu'il était aux prises avec la dépression, des pensées suicidaires depuis l'âge de 14 ans. Et peut-être un des éléments déclencheurs, en tout cas c'est lui qui l'a dit, c'est que lorsqu'il avait vu un reportage à la télévision où le Canada ouvrait ses portes aux réfugiés. Il dit que c'est l'une des raisons qui l'ont décidé à passer à l'acte. Jonathan Bernard, notre collègue de Cogeco Nouvelles, est à Québec. Jonathan, bonjour.
Bonjour, Paul.
Oui, donc, c'est peut-être un des éléments déclencheurs, en tout cas, au dire de celui qui a fait la tuerie du 29 janvier 2017.
Oui, effectivement. C'est l'une des choses qu'il a mentionnées, mais ce que l'on en comprend, c'est qu'il vit avec une véritable paranoïa. C'est du moins ce qu'il... c'est pas ce qu'il a expliqué, mais c'est ce que l'on ressent après avoir visionné ce long interrogatoire d'une durée d'environ 2h30 qui a été réalisé par le sergent détective Steve Girard. On y voit Alexandre Bissonnette qui est vêtu d'une combinaison blanche dans un petit cubicule blanc éclairé par des néons, un peu ce que l'on peut voir dans les films. Il est en pleurs par moments, respire fort, les jambes croisées, se tient la tête avec une main. Il est véritablement rongé par l'anxiété, il coupe très souvent court aux questions du sergent détective pour lui dire qu'il n'a pas le goût de parler de plusieurs sujets. Cependant, il a quand même été possible d'en apprendre beaucoup sur le meurtrier, et c'est vraiment dans le dernier tiers de l'interrogatoire qu'il finit par aborder la tuerie et ses motivations après que l'enquêteur ait justement gagné sa confiance. Et au moment de se mettre à table, il a dit ceci.
« Je suis pas un monstre. »
Et vous aurez compris que lorsque ce fut diffusé en salle d'audience, les veuves des disparus, eh bien, sachez qu'elles ont poussé un grand soupir de désapprobation, vous l'aurez compris.
Bien sûr. Il était traité d'une certaine façon.
Ouais.
Il s'était fait prescrire notamment du Luvox par un médecin généraliste et puis plus tard du Paxil.
Effectivement, ça a été mentionné. Il a été question également de sa consommation d'alcool parce que il a mentionné à plusieurs reprises, notamment on pouvait l'entendre hier dans la bande audio du 911 qu'il avait consommé de l'alcool. Il a précisé en disant du saké et qu'il en avait bu durant la journée. Cependant, il disait être correct pour pouvoir prendre le volant, ce qu'il a fait pour se rendre en direction du Centre culturel islamique de Québec. Mais par la suite, là, tout ce qui est de la tuerie, il ne semble pas se souvenir de grand-chose, sauf il dit avoir eu un flash qu'il y avait des enfants. C'est ce pourquoi il a voulu savoir s'il en avait atteint et il confirme ne pas en avoir visé. Il explique, et je cite, que ça s'est passé comme un éclair, qu'il a perdu le contrôle et il confirme avoir agi seul, mais ne se souvient pas d'avoir rechargé son arme, ce qu'il a fait à 4 reprises et ni même si l'une de ses victimes avait tenté de l'arrêter. Donc, je vous inviterai à écouter un extrait qui fait foi justement de son manque, de son absence de souvenirs.
Je ne me rappelle de rien de ça. OK. Vous m'avez dit qu'il y avait eu 6 personnes, puis ça, je trouve que ça se peut pas. Parce que j'ai tiré n'importe où.
Ça, tu te souviens d'avoir tiré n'importe où?
C'est juste le fait que je me rappelle.
OK. Est-ce que tu te souviens qu'il y a des gens qui ont tenté de t'arrêter?
Non.
T'es sûr?
Oui. Quelqu'un qui a essayé de m'arrêter. Qui ça?
Une personne qui était là, à l'intérieur.
Elle a-tu réussi ou?
Ben non.
Mais elle n'est pas décédée, par exemple?
Oui.
Évidemment, ça fait référence à cet épicier qui est devenu une sorte de héros, malheureusement, qui a perdu la vie. J'imagine qu'il y a dû encore y avoir des réactions en salle.
Effectivement, il y a eu des pleurs qui sont venus de l'arrière de la salle où se trouvaient des proches des victimes, dont des veuves. Il faut mentionner également qu'il a été question, oui, pourquoi avoir ciblé le Centre culturel islamique de Québec. Et le sergent détective Girard est vraiment allé droit au but en lui posant la question suivante.
Mais hier soir, là, quand t'es parti chez tes parents, puis que t'as pris tes 2 armes à feu, où tu t'en allais?
Je pense que je me serais promené.
Puis pourquoi t'as choisi cet endroit-là?
Ben, moi je voulais sauver les gens.
Tu voulais sauver les gens?
Oui.
Sauver les gens de?
Des attaques terroristes. Peut-être avec mes actions, avant de me tirer dans la tête, plutôt que de bien faire ça chez nous, ou bien dans le bois quelque part. T'sais. Hier, peut-être que grâce à ce que j'ai fait, il y aura peut-être une centaine de personnes qui vont être sauvées.
Oui. Alors, eh bien, on voit que son parcours, là, il s'est intéressé déjà en 2014 à l'attaque de Zeaf Bibo sur le Parlement, l'attentat au camion Bélier à Nice, aussi en 2016. Vraiment, il était vraiment obsédé, ni plus ni moins, pour ces attaques.
Ah oui, il faisait vraiment une fixation de ces attaques, de ces attentats djihadistes. Et c'est ce qui a alimenté sa paranoïa, une paranoïa qui va jusqu'à lui faire penser que ses parents sont en danger. Et il le répète, je vous le dis, à de nombreuses reprises. Et il dit même être convaincu qu'ils en veulent à ses parents. Donc, tout ce qui a été présenté jusqu'à présent, c'est une espèce de cocktail d'anxiété, de paranoïa, d'antidépresseurs et d'alcool, des choses qui ne font pas nécessairement très bon ménage.
Merci beaucoup, Jonathan Bernard à Québec.
Plaisir, au revoir.
Nous allons reprendre à partir de là à 16h05 avec Guy Ryan. Vous savez, c'est un travail, on a souligné le travail du répartiteur du 911 qui a été absolument remarquable, non seulement par la durée, mais aussi par le ton, les propos, ce qui a permis justement de pouvoir, d'une certaine façon, calmement arrêter Bissonnette. Donc Guy Ryan, ancien policier du SPVM, va nous parler de ses techniques d'interrogation à 16h05.